Galaxy BD.
Bonjour mademoiselle Stevenson.
Qui peut me dire combien font 3 plus 3?
Mais tout le monde sait que ça fait 6.
Marie, tu veux bien te lever? Saurais-tu me dire combien font, disons, 135 multiplié par 57? Très bien.
7695. La racine carrée est 87,7. Et des poussières. Sinon, ça veut dire quoi, ad nauseam?
Voilà la bande-annonce du film Mary de Mark Webb, sorti en 2017. Pourquoi? Bien, tout simplement parce qu'on y parle d'une enfant HP. Et c'est évidemment le sujet, Isabelle Barry, du roman que tout le monde connaît, ou peut-être pas tout le monde, mais en tout cas, qui a eu un très grand retentissement, Zebrasca, que vous transposez aujourd'hui en bande dessinée chez Dupuis. Alors, il faut le dire, avec Ludo Boricchi au dessin et l'aide de Corbeyran, d'Éric Corbeyran pour le scénario. Mais
une grande aide quand même.
Ce qui est important, c'est que vous décidez à un moment que ce roman qui a eu un, je l'ai dit, véritable retentissement parce que vous y montriez une réalité qui est très à la mode, comme on dit souvent, mais que beaucoup méconnaissaient. Bah, tout à coup, vous vous êtes dit, il a droit à une seconde vie.
Oui, vraiment. Alors, ça a été initié par une demande qui date d'il y a au moins 8 ans.
Le roman a 10 ans à peu près,
oui. Qui était une demande de parents, surtout, qui disaient, en fait, moi, ce sujet, il est génial. J'ai adoré le roman. J'aimerais beaucoup le partager avec mes jeunes. Mais mes gamins ne lisent pas. Donc, je fais comment? Si je le laisse traîner sur la table du salon, ça ne va jamais arriver dans leur chambre. Donc, par contre, si vous faites une BD... Je pense que je pourrais partager ça avec eux. Et puis, ces demandes sont arrivées aussi dans les écoles, où des étudiants me disaient « Mais madame, pourquoi vous ne le faites pas en BD ? Parce que nous, en fait, les romans, on n'aime pas trop lire. Mais si c'est des BD, c'est plus sympa. » Et en fait, ça a commencé à trotter dans ma tête. Et puis, on a, comme on dit chez nous en Belgique, chipoté, hein, pour trouver avec qui. Vous dites ça aussi en France ?
Oui.
Ben voilà, mais on a chipoté pour voir avec qui on pouvait le faire. Ça a pris pas mal de temps. Et voilà, c'est comme ça que c'est né, en fait. Et puis, tout s'est mis bien, j'ai envie de dire. Et c'est souvent là où on se dit, ben, c'est que c'était peut-être le moment d'y aller, quoi.
Alors, on ouvre Zebrasca, Isabelle Barry. Et ce qu'on voit en premier lieu, c'est que on est pleinement dans de la bande dessinée ado, enfant ado, on va dire. Tous les codes y sont et la volonté, évidemment, c'était de transformer ce livre qui était pour adultes et qui permettait à beaucoup d'adultes d'enfin comprendre pourquoi autour d'eux, on parlait de ce problème des HP qui sont inadaptés ou qui n'arrivent pas à trouver leur place. Tout à coup, hop, on change complètement de registre par le simple fait du dessin. En fait, c'est même pas tant la façon de faire le scénario qui change, c'est le dessin qui pose un autre regard.
Oui, tout à fait, parce que c'est vrai que le scénario, c'est avec Corbeyran, on en avait discuté dès le début. Il a dit, ouais, c'est ton univers, c'est ton histoire. Moi, je vais juste découper, t'aider à découper et on va travailler ensemble. Alors, je voudrais quand même souligner que ça a été un très, très, très beau travail d'équipe, que ce soit avec Corbeyran, qui habite quand même à des kilomètres d'ici.
Il est à Bordeaux.
De Bordeaux, et que je n'ai vu qu'une fois. C'était à la sortie des toilettes de la Foire du Livre, où on s'est croisés, on s'est dit... Tiens, tu ne serais pas aussi. Bon, ben voilà, ça fait un an qu'on travaille ensemble et on ne s'était pas vus. Donc, c'était assez drôle. Et avec Ludo aussi. Et souligner aussi le travail de Ben Beka, le coloriste, parce qu'on parle toujours très peu des coloristes, mais enfin, ils font quand même un sacré boulot qui change toute la BD, il faut quand même le dire. Voilà, donc c'était vraiment une très, très belle collaboration. Mais c'est vrai que, en fait, avoir ce dessin qui arrive, c'est vraiment fabuleux et ça transforme tout. Et c'est un vrai choix. De le faire en jeunesse, en fait, de travailler ensemble avec cette cible jeunesse derrière. Et pour moi, c'était très émouvant et absolument fabuleux de faire ça. C'est un travail qui change parce que le romancier, il est seul derrière son ordinateur. Quand on travaille là, sur une BD, pouvoir se permettre de faire un vrai travail d'équipe avec des va-et-vient, c'est vraiment assez fabuleux. Et c'est vrai que c'est un dessin qui est tout de suite... voilà, c'est pour ça qu'on a choisi Ludo aussi, parce qu'on a décidé d'avoir un dessin jeunesse et d'avoir un dessin, c'est vrai, qui est rond avec des codes couleurs qu'on a décidé de prendre dès le départ et qui font pour moi une grande partie de la BD.
Et un personnage qui vit en 2055, le jeune Marty, et qui va découvrir à travers une bande dessinée quelque chose qui concerne son propre père et une autre image de son propre père parce que on connaît jamais ses pères.
Mais c'est vrai que lui, son père, c'est quelqu'un de fantastique, mais d'un peu inapprochable. Il voit son papa comme quelqu'un qui est très malin, qui est derrière ses petites maquettes. Il est architecte, très difficile d'accès. Ils ont en fait peu de contacts. Et puis, sa grand-mère va lui offrir un livre. Alors, dans le roman, c'est un livre. Dans la BD, c'est une BD.
Petit et donc, changement de médium.
Voilà. Et donc, il va recevoir cette BD et il va découvrir effectivement qui était son père avant, puisque sa grand-mère le raconte dans la BD. Et il va être scié d'abord parce que ce n'est pas le père qu'il a devant lui. Il se rend compte que son père a eu une enfance, des émotions.
Le même âge que lui.
Avec le même âge que lui, tout à fait. Et qu'en fait, ils partagent, pour finir, alors qu'ils pensaient qu'ils étaient complètement, en tout cas diamétralement opposés, ils partagent énormément de choses en commun. Et ça va être une révélation pour lui de découvrir ça à une époque où, en plus, il n'existe plus aucun livre. Donc, sa grand-mère lui fait là un cadeau particulier, puisqu'on est en 2055, que tout le monde se trimballe avec des lunettes holographiques et que le roman et la fiction ont disparu du monde.
Alex Jordanov, vous pensez qu'il n'y aura plus de livres en 2055 ?
Moi, ce qu'on m'a expliqué, c'est les ventes, oui, s'en ressentent largement. Oui, je pense qu'on sera passé à autre chose, oui. Mais elle raconte ça très bien.
Merci.
Maintenant, j'ai envie de le donner à ma fille.
Ah bah voilà, quelle bonne idée.
Cynthia Izzarelli, vous aviez lu Zebrasca lorsque le roman était sorti ?
Alors oui, je l'avais lu. Je l'ai redécouvert ici en bande dessinée. C'est vrai que 10, voire même 12 ans peut-être ont passé. Et la grande différence aujourd'hui, je pense, c'est que le sujet est beaucoup plus largement discuté, tant dans les médias que sur les réseaux sociaux, que même, je pense, dans les conversations de tous les jours, des termes comme HPI, TDA, TDAH, la neurodivergence en général. On a fait du chemin, j'ai l'impression, en 10 ans. Est-ce que ce chemin parcouru, le fait que la parole est libérée là-dessus, mais aussi qu'il reste forcément beaucoup d'incompréhension, parce qu'on sait bien la courbe de connaissance, moins on en sait, plus c'est facile de parler d'un sujet, puis on avance et on se rend compte que c'est plus compliqué. Et Zebrasca n'avait pas vocation à être un essai sur la neurodivergence, mais est-ce que le fait de retraduire ça maintenant avec le chemin parcouru et tous les contacts que vous avez eus, vous avez aussi repensé la façon de peut-être d'aborder le sujet? Parce que la question est un peu longue, je suis désolée, mais en relisant la BD, j'ai eu le sentiment que oui, le sujet des zèbres et du HPI est là, mais que finalement, le vrai sujet, c'est peut-être plus la transmission intergénérationnelle.
Oui, alors c'est pas vraiment venu comme ça. Ce que je pense, c'est qu'il y a effectivement une évolution et comme vous le dites très bien, on vit quand même aussi dans un monde polarisé. Mmh. Donc aujourd'hui, on fait attention aux claques qu'on pourrait se prendre. Donc à la fin du tome, il y a un carnet, un dossier. Oui. Qui
est assez complet,
expliquer. Oui, oui, tout à fait.
Que vous avez dirigé, Isabelle.
Que j'ai dirigé et où je me positionne aussi vraiment en maman de HP, en autrice, c'est-à-dire qui va se renseigner, mais pas en tant que scientifique. Mmh. C'est pas un essai scientifique parce que je sais que tout de suite on va dire ah mais la science dit aujourd'hui que c'est pas vrai. Donc faut toujours prendre des gants et des pincettes
bien
pour
sûr.
Tout ça. Mais c'était pas une volonté de parler plus de la transition, mais je crois on en parlait. Alex le disait tout à l'heure, l'importance du dessin. Parfois, on peut dire beaucoup de choses avec le dessin. Peut-être que le dessin a mieux transmis cette idée de transmission, en fait, ici, à la limite, sans le vouloir. Mm-hmm. Pourquoi ? Parce qu'on va voir Mamiléa qui donne vraiment physiquement ce livre à Marty. Elle intervient aussi des mimiques en plein milieu de la lecture de Marty en disant « Mais t'as rien compris, mon gars, en fait. Qu'est-ce que tu crois que ça allait être simple de lire ?» Voilà, ça, dans un roman, c'est très difficile à traduire. Là, on peut le montrer, on peut voir ses mimiques, on peut voir qu'elle est taquine. Et c'est vrai que je pense que le dessin permet peut-être certaines choses qui n'étaient pas faciles à transmettre par les mots uniquement. Mais en tout cas, ce n'était pas une intention. Mais c'est là, et c'est ça qui est chouette, en fait.
Ouais.
Et ce qui est magnifique aussi, c'est de redécouvrir soi-même sa propre histoire, j'imagine.
Ah, ça, c'est fabuleux. C'est super émouvant. Le premier petit Marty qui est arrivé dessiné par Ludo, mon ordinateur n'allait pas assez vite pour s'ouvrir. Quoi. C'était vraiment, j'avais envie de voir comment lui voyait Marty, comment lui voyait Thomas. Alors, on en a discuté, évidemment, en amont. L'idée était, bon, comment toi, tu vois Marty Isabelle ? Parce que c'est vrai que dans les romans, on ne décrit pas son personnage de A à Z. Et là aussi, il me disait, les villes, tu parles du ville du futur, mais t'es comique, toi, tu la vois comment, ta ville du futur ? Donc, on a discuté pas mal en amont de tout ça. Mais les premiers dessins, quand ils arrivent, il y a quelque chose de super excitant et de fabuleux. Moi, j'ai adoré, vraiment adoré.
Oui, c'est un futur qui est quand même assez plausible.
Oui.
C'est-à-dire qu'il ne va pas trop loin dans...
On voulait juste forcer le trait, en fait.
Il
n'y
a pas d'explication de comment fonctionne ceci ou cela. Mais on sent que visuellement, il y a une recherche quand même de qu'est-ce qui pourrait advenir dans une cinquantaine d'années. Même pas.
On est un peu moins.
25
ans. Ouais,
oui,
tout à fait. Une génération. Hein, ouais.
On est déjà en 26. Quand même.
Oui, ça file.
Et là, vous avez travaillé à deux ou à trois?
Et là, on
c'est
a vraiment
Ludo Boricchi qui s'est chargé de ça.
Non, vraiment, lui me disait comment est-ce que tu le vois, comment est-ce que tu vois le monde en 2050. Donc moi, j'ai rassemblé aussi pas mal d'informations que j'avais déjà rassemblées en fait pour le roman, mais que je n'avais pas vraiment utilisées en fait dans le roman, puisque c'était juste pour que je trouve que même dans un roman, pour que ça sonne juste, il faut être bien documenté. Même si on ne le décrit pas, il faut savoir qui est notre personnage, quelle est sa psychologie. Même si on ne le décrit pas, si on ne le sait pas nous-mêmes, ça ne sonne pas juste. Donc cette documentation, je l'avais déjà prise, donc je l'ai transmise à Ludo. Et pour finir, je disais pour finir, oui, peut-être que ce serait bien de voir des personnages qui sont un peu style Tokyoïte, c'est-à-dire qu'on pousse un peu le trait, mais on va leur mettre un peu des cheveux roses, un peu, mais c'est pas, on va pas voir des ovnis dans le ciel. Pour l'architecture, je m'étais basée sur un architecte français dont malheureusement j'ai oublié le nom, mais qui a dessiné Paris en 2055. Et c'était évidemment tous des bâtiments en verre avec énormément de verdure, enfin, comme on peut un peu tous se l'imaginer. Mais je trouvais que c'était très aidant d'aller voir comment les autres voyez 2055, et pour finir, on a vraiment eu qu'à forcer un petit peu le trait. Et là, évidemment, après, Ludo a eu sa liberté totale, une fois qu'on a défini ça. Voilà, alors ça fait des allers-retours, hein, entre je te passe trois planches, est-ce que ça te plaît voilà, donc il y a d'abord le scénario, il est revu, et puis une fois qu'on est tous contents sur le scénario, ça passe chez Ludo, et là, c'est un aller-retour de planches avec énormément de connivence, ce qui était très sympa.
On est aussi dans un monde qui a fait une sorte de paix avec lui-même. C'est-à-dire que ça pourrait être du post-apocalyptique et c'est l'inverse. Vous avez décidé que d'ici 25-30 ans, on trouverait le moyen de sortir de ce bordel. Je vais résumer ça comme ça.
On se le souhaite. Aujourd'hui, j'aimerais bien qu'il y ait une grande bascule. voilà, que tous les États du monde entier se mettent d'accord et qu'on se dise, bon là, il faut faire un gros truc parce qu'on va droit au mur et on va tous se mettre d'accord. Mais bon, on n'est pas très bien partis.
Une des choses quand même qu'on sent dans cette grande bascule et la manière dont à un moment, peut-être, on peut remettre les pendules à l'heure et repartir vers autre chose, c'est qu'il faut quand même faire table rase du passé et que ce n'est pas si anodin.
Non, c'est pas anodin parce que ce que je me disais, si on crée un monde utopiste, en tout cas dans la BD, bah ça sonne pas juste non plus, ça fait vite niais. Puis c'est pas juste. Il y a toujours, à chaque époque, il y a des biais, il y a des soucis. Et donc j'ai aimé me dire qu'en 2055, le biais serait qu'on a tellement eu honte du passé qu'on n'en parle plus. Donc on parle plus d'histoire dans les écoles et il y a plus de livres pour parler d'histoire. Et ça, c'est vrai, comme vous disiez, Thierry, c'est en fait, on peut croire que c'est post-apocalyptique, mais en fait, c'est une apocalypse cachée. Mmh. C'est-à-dire qu'on a l'air, ça a l'air magnifique, mais en tout cas, derrière, de façon sous-jacente, c'est très dangereux. Et c'est évidemment ce que Mamie Léa a compris.
On sent ça, oui.
Voilà. Et c'est pour cette raison-là qu'elle décide d'offrir un livre à son petit-fils.
Alors, il y aura deux tomes, si je ne me trompe pas.
Tout à fait.
C'est ce qui est annoncé, en tout cas. Le prochain est prévu pour quand ?
Eh bien, pour septembre, donc on a décidé de ne pas trop faire attendre tout le monde, en espérant que tout le monde l'attende, évidemment.
Presque, deuxième. Presque aussi rapide qu'un mangaka, c'est formidable.
Voilà, donc voilà, d'ici septembre, le tome 2 sortira, oui.
Merci Isabelle Barry.
Merci
donc
beaucoup.
Avec Ludo Boricchi et Eric Corbeyran, vous publiez ce premier volume de Zebrasca en bande dessinée, Un garçon pas comme les autres, c'est paru chez Dupuis. Et dans un instant, on va parler, puisqu'on parle de Dupuis, notamment d'une héroïne. Dans Spirou Fortatio, il y a un nom de femme qui vous vient à l'esprit ?
Non.
Ah, pourtant, c'est Cotine.
Non.
Finalement, c'est assez symptomatique et on va en parler parce que c'est Cotine est sous-exploitée.
Allez, c'est dans un instant avec Cynthia.
Galaxy BD, l'émission qui explore tous les univers graphiques.